Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la seconde partie du psaume 23. J'avais abordé la première partie il y a quelques semaines. Alors pour ceux qui étaient absents, vous pouvez le réécouter sur le site internet de l'Église, tout comme vous pouvez réécouter l'ensemble des prédications sur la série des psaumes que nous avons commencé depuis septembre. Alors dans cette première partie, nous avions parlé du parallèle entre Dieu et le berger. Nous avions abordé le rôle du berger, de la dépendance des brebis à son égard. Et puis nous avions parlé également de la sagesse de Dieu qui voit au-delà de nos horizons. Puis enfin, nous avions abordé la grâce de Dieu qui nous conduit sur le chemin de justice. Alors je vous propose de relire ce psaume. Et José, si tu veux bien l'afficher. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors la première remarque que je ferai, c'est que si on regarde attentivement dans ce texte, on peut remarquer que dans les premiers versets, David parle de Dieu à la troisième personne. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer, il me dirige, il restaure, il me conduit. Et puis dans les versets que nous allons aborder aujourd'hui, Dieu va plutôt en parler à la seconde personne. Tu es avec moi, ta houlette, ton bâton, tu dresses une table, tu oins d'huile. On a l'impression que la relation devient un peu plus personnelle, plus intime. Ce temps où il a été conduit vers le repos a permis à David de mieux connaître son Dieu. Et David va alors parler de lui, de ce qu'il ressent. Dans la première partie, David a décrit comment Dieu s'occupe de lui. Mais là, il va plus rentrer dans comment lui vit cette relation particulière avec l'Éternel qu'il considère comme son berger. Et il commence par parler des moments sombres de sa vie. Même si Dieu lui donne du repos, comme on a pu le voir, il lui est aussi arrivé de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. D'autres traductions utilisent l'expression « la vallée où règnent les ténèbres de la mort ». Luc, il y a quelques semaines, nous a rappelé par quelles circonstances de vie David est passé. Il a vécu pourchassé, devant se faire passer pour fou pour survivre. On pourrait s'attendre d'un bon berger que la vie à ses côtés soit rose. Et pourtant, David nous rappelle que dans notre marche, nous pouvons traverser la vallée de l'ombre de la mort. Les temps difficiles existent. Épreuves, difficultés, souffrances, maladies, morts, ça fait inévitablement partie de notre quotidien. Pourquoi ? Est-ce notre berger qui nous y amène ? Est-ce nous qui nous y égarons ? Est-ce juste le hasard des circonstances de la vie ? Est-ce une sanction ? Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple ou universelle qu'on peut donner à ces interrogations. On peut simplement rappeler quelques principes. Un cadre pour contenir nos réflexions, éliminer des idées erronées qui pourraient nous venir. Il faut se rappeler tout d'abord que ni le mal ni la souffrance ne sont la volonté de Dieu. En Genèse 1, 31, après que Dieu ait tout créé, on peut lire « Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. » Le mal et ce qui en découle, c'est-à-dire la maladie, la souffrance, la mort, etc., nous sont présentés comme des conséquences de la désobéissance de l'homme, de son péché. L'objectif de Dieu, suite à cela, c'est de délivrer l'humanité. Et c'est ce qu'il nous a prouvé en nous rachetant par la mort de Jésus-Christ. Alors, les vallées où règnent les ténèbres de la mort que nous pouvons traverser ne peuvent pas être considérées simplement comme des punitions envoyées par Dieu suite à nos manquements personnels. Le mal est présent dans le monde et nous en vivons tous les conséquences. Nous vivons dans la souffrance parce que nous sommes pécheurs, parce que l'humanité est déchue, parce que le péché est présent dans le monde. Nous subissons les conséquences de la chute. Le mal et la souffrance, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Alors, dans ces heures sombres, comment vivons-nous notre relation avec notre Créateur? David nous affirme que, dans ses propres temps sombres, il ne craint aucun mal. Pourquoi? Comment y arrive-t-il? Il sait que Dieu est avec lui. Il a confiance en son Dieu. On dit parfois que la confiance, ça ne se décrète pas. C'est le cas dans nos relations humaines, mais c'est vrai dans notre relation avec Dieu également. La confiance, ça se construit, ça se développe, ça s'expérimente. Alors, en regardant en arrière dans ma vie, et je sais pas pour les vôtres, mais ce que je peux dire, c'est que c'est souvent dans les temps difficiles que j'ai appris de Dieu et avancé. Mais n'oublions pas que dans ces temps difficiles, Dieu est de notre côté. Nous pouvons le lire en Jean 16, verset 33. Jésus avait prévenu ses disciples. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Et en Romains 8, Paul écrit, « Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu nous a prouvé son amour envers nous, en envoyant son Fils pour nous sauver. Dieu est à nos côtés, quand ça va bien, quand c'est difficile. Apprenons à lui faire confiance. Et comment David ressent-il cette présence de Dieu à ses côtés dans les temps difficiles? Il va la décrire en utilisant l'image de deux outils dont se sert le berger. Le bâton et la houlette. Le bâton a plusieurs fonctions pour le berger. C'est tout d'abord un outil de défense. Les brebis sont des proies faciles. Le berger a pour responsabilité de les défendre face aux bêtes sauvages. Le bâton peut aussi servir à rappeler à l'ordre des brebis. C'est un outil utile pour la discipline dans le troupeau, pour séparer des bêtes en conflit, pour ramener à l'ordre l'une ou l'autre des brebis. Puis le troisième rôle du bâton, c'est d'aider à examiner les brebis, permettre au berger de fouiller dans l'épaisse toison à la recherche de parasites. C'est pour le bâton. Et la houlette, je sais pas si vous voyez, c'est donc une longue tige recourbée, qui fait une sorte de boucle à son extrémité. Et elle sert plutôt à rassembler le troupeau, à amener une bête à changer de chemin sans la toucher ou à la soutenir sur un passage difficile. Elle sert aussi à relever les agneaux, à secourir les brebis en danger. Ces outils du berger peuvent être mis en parallèle avec ceux que nous avons à notre disposition dans les temps difficiles. La Bible, le Saint-Esprit, par exemple. Par sa parole, Dieu peut nous réconforter. Son esprit la rend vivante en nous. Alors ça peut être pendant notre temps de lecture régulier, ça peut être par un verset reçu par SMS, mais la parole de Dieu est vivante. Elle est pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu peut nous aider à nous examiner aussi, à révéler les parasites qui empoisonnent nos vies. Mais Dieu se sert également d'autres moyens dans les temps difficiles. La prière, le soutien de nos frères et sœurs. Dieu nous offre à sa manière le réconfort dont il sait que nous avons besoin. Et la véritable source de ce réconfort, c'est notre foi en Christ. Le verset de Jean 16 que nous avons lu tout à l'heure nous l'affirme. « J'ai vaincu le monde, nous dit Jésus. » Il est plus facile de faire confiance à quelqu'un qui a déjà réalisé ce qu'il promet. La victoire de Christ sur le mal, la souffrance, et la mort est déjà acquise. Alors je vais passer au verset suivant, et ce n'est plus l'image du berger que le psalmiste utilise, c'est l'image de l'hôte qui accueille. Verset 5, « Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. » C'est tout de suite plus réjouissant comme image. on passe de la vallée de l'ombre de la mort à une table de festin. Et dans notre culture, c'est une comparaison qui nous parle. Hier, nous déménagions, et quelle joie à 11h30, une fois le camion vidé, de savoir qu'une table et un bon repas nous attendaient chez une sœur. Le repas, c'est synonyme de repos. C'est le moment de souffler. Et c'est ce que nous décrit David. Après avoir traversé la vallée où règnent les ténèbres de la mort, c'est désormais un temps de repos et de ressourcement qui l'attend. Dieu nous dresse cette table, nous prépare ce festin. Ça vient de lui. Son amour et sa bonté, Dieu la manifeste dans ce moment qu'il nous prépare. Le repas, c'est l'occasion de nous nourrir, de nous ressourcer, de partager aussi avec les autres convives. C'est un temps de communion. Ce temps auquel Dieu nous invite, c'est une preuve qu'il veut nous conduire vers les lieux où nous pouvons être bien. Bien avec lui, bien les uns avec les autres aussi. Le repas, c'est aussi souvent associé à des actes solennels. C'est une manière de marquer le coup. Et quand le texte nous parle que l'Éternel oint d'huile la tête de David, c'est qu'il veut l'honorer. Dieu est heureux d'avoir David à sa table. Il est heureux de nous avoir à sa table. Nous ne sommes pas un grand-oncle ou une grande-tante que l'on se sent obligé de convier à une fête de famille parce que c'est de bonne convenance. Non, nous sommes des invités de marque, des invités d'honneur. Il en a coûté à Dieu de nous préparer cette table, mais il l'a fait pour nous. Alors dans ce verset, il y a une partie qui m'a un peu posé question, c'est la mention des adversaires ou des ennemis selon les traductions. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Alors j'en ai trouvé deux interprétations. La première, c'est que ce repas devant ses ennemis, c'est le signe, le rappel de la justice divine. Ceux qui en voulaient à la vie du psalmiste sont désormais confondus. Ce repas, c'est finalement la reconnaissance du juste, de sa fidélité, face à ceux qui lui ont fait du mal. Et puis, la seconde interprétation, c'est la possibilité qui nous est offerte aussi de les inviter à partager ce repas. En Matthieu 5, on peut lire « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien moi, je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est une invitation qui nous est faite. Un peu plus loin, on peut lire « Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ?» Jésus nous invite à aller plus loin dans nos relations. Il nous invite à l'extraordinaire. Alors ayons ce désir, lorsque c'est possible, d'entrer dans ce processus qui aboutira peut-être à une réconciliation. Le psaume se conclut par cette affirmation. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je suis toujours impressionné par l'entrain de David. Il affirme cela avec une telle certitude. Il semble certain de vivre chaque jour le bonheur. Chaque jour. Est-ce réaliste? Est-ce que ce sera encore mon état d'esprit lorsque la santé se dégrade, lorsque je perds ma situation, mon travail, si mes amis se détournent de moi? Qu'en est-il si je perds ce qui me rassure? Serais-je toujours prêt à affirmer que le bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie, tous les jours? Un berger prend soin de ses brebis. Nous pouvons être assurés que Dieu prend soin de nous. Jésus-Christ est lui-même défini comme le bon berger. Si nous pouvons affirmer que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours, c'est parce qu'on connaît notre berger. C'est parce qu'il le connaît suffisamment qu'au début du psaume, David avait la fierté de dire « Je ne manquerai de rien ». Il sait que l'Éternel voit au-delà de nos horizons. De la même manière, David comprend bien que le véritable bonheur, le seuil qui vaille de rechercher, c'est celui que lui procure Dieu. C'est la vie dans la présence de Dieu. Il y a le maintenant, encore imparfait, où nous expérimentons cette présence, et puis il y aura l'éternité, où nous vivrons pleinement cette présence. Puis n'oublions pas non plus que ce bonheur et cette grâce qui nous accompagnent chaque jour peuvent aussi être vus comme le bonheur et la grâce que l'on sème autour de nous. Que laissons-nous derrière nous ? Paix ou conflit ? Pardon ou amertume ? Amour ou rancœur ? C'est une réflexion que je vous laisse. Que transmettons-nous ? Du bonheur qui nous habite, de cette grâce qui œuvre en nous. Nos proches, nos amis, nos familles peuvent aussi recevoir de ce bonheur et de cette grâce divine au travers de nous. Alors, ce psaume nous interroge, nous questionne sur nos vies. À quel point est-ce que je connais mon berger ? Est-ce que j'en suis fier ? Lorsque je traverse la vallée où règnent les ténèbres de la mort, dans mes moments de vie difficiles, sur quoi est-ce que je fonde ma sécurité ? Comment est-ce que j'appréhende la houlette et le bâton de Dieu ? Quelle relation ai-je avec mes adversaires, mes ennemis ? Quelle est la source de mon bonheur ? Et qu'est-ce que j'en fais de ce bonheur, de cette grâce dont je suis bénéficiaire ? Beaucoup de questions ouvertes. Et il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses, je pense. Elles nous poussent avant tout à nous examiner, à regarder nos vies, notre relation à Dieu, de manière réaliste, et à avancer sur ce chemin. J'espère en tout cas que ce petit parcours dans le psaume 23 va vous permettre de le faire un peu plus vôtre, va nous permettre de le faire un peu plus nôtre. Alors je vous propose de terminer en le relisant. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.